Chapitre 32. Les diverses pollutions ont provoqué les mutations brutales de plusieurs espèces. Certaines d'entre elles, qui étaient inoffensives, sont devenues agressives, dangereuses, hégémoniques. Telle cette variété de grenouilles, jadis prisées pour leur chair délicate, devenues venimeuses, non pas pour se défendre contre d'éventuels prédateurs, mais pour attaquer les autres animaux, plus petits ou plus gros qu'elles. Patrice Beaugrain, Le Matin des Parisiens. Pays hors site 1. Les rayons du soleil couchant ensanglantaient la Méditerranée. Ganesh et le reste de la troupe avaient marché une grande partie du jour, se désaltérant aux sources qui coulaient des parois rocheuses. Les soldats avaient tué un chevreuil dont ils avaient fait griller les morceaux sur les braises d'un feu allumé à l'aide d'un petit appareil appelé pyrox. Derrière eux, l'ombre massive de la chaîne des Pyrénées barrait l'horizon, habillée de nuages enflammés. La température avait brutalement chuté. Ava grelottait dans sa tenue légère. Ganesh lui avait donné sa veste. Le vent frais lui mordait la peau au travers de sa chemise. La beauté du pays hors site ne cessait de le surprendre. Il s'était attendu à évoluer dans un paysage ravagé, pelé, sinistre. Il découvrait une végétation exubérante arrosée par des sources, sillonnée de cours d'eau. La nature avait repris ses droits, avec une vigueur que les populations retirées dans les cités n'avaient pas prévue, et absorbait une grande partie des pollutions nucléaires et chimiques provoquées par les affrontements de la Grande Guerre.
« On est à combien de Port-la-Nouvelle ? » demanda Issa.
« Je sais pas au juste, » répondit l'un des soldats. « Nos cartes électroniques sont un peu déboussolées. » Comme si les pôles magnétiques avaient bougé. On sait juste qu'on doit longer la Méditerranée en direction du nord pour tomber sur le site.
« Vous ne comptez tout de même pas marcher jusqu'à l'aube ?» grogna Leif.
« Non, va falloir trouver un coin pour nous reposer, et aussi de quoi boire et manger. »
À la tombée de la nuit, ils s'installèrent dans un bâtiment en pierre couvert de lierre et de ronces. Une ancienne bergerie, selon Anton. Une partie du toit résistait encore, malgré le poids de la végétation. Quelques herbes au feuillage dentelé parsemaient le sol de terre battue. Après avoir entassé du bois mort à l'intérieur d'un cercle de pierre, ils allumèrent un feu, autour duquel ils s'assirent. Les gourdes des soldats passèrent de main en main.
« Pas plus de 2 gorgées chacun! On n'est pas sûr de trouver d'autres sources potables dans le coin !»
3 soldats partirent en chasse. Les 3 autres, Ganesh, Anton et Leif, se chargèrent de ramasser du bois mort pour alimenter le feu. Ils trouvèrent dans un rayon de 200 mètres des souches et de grosses branches, probablement abattues par les orages. Leif ne cessait de vitupérer contre l'hostilité de la nature.
Dire qu'il y en avait dans la cité qui militaient pour un retour à la vie sauvage. On aurait dû leur organiser des stages de survie en pays hors site. À mon avis, ils auraient vite réclamé leur retour à la civilisation.
Quelle civilisation ? Releva Anton. Tu disais toi-même que le vernis citadin n'avait servi qu'à masquer la barbarie.
Peut-être, mais au moins, j'avais pas mal aux pieds ni aux mains. J'avais qu'à m'asseoir dans un restaurant pour manger, à m'allonger dans mon lit pour dormir, à tourner un bouton pour me chauffer. La civilisation a beau être un simple déguisement, elle offrait tout de même quelques avantages, non ?
Elle a réussi à faire de nous de parfaits inadaptés, conclut Anton.
Des coups de feu retentirent dans le lointain.
Notre dîner est avancé, s'exclama Leif.
À moins que ce ne soit les ombres, souffla Anton.
Ils revinrent dans le bâtiment en traînant les branches qu'ils entassèrent sur le feu. Ava rendit sa veste à Ganesh. Je n'en ai plus besoin. Elle le remercia d'un baiser appuyé, dont Ganesh soupçonna qu'il était également un message envoyé à Issa et Hayat. Les flammes révélaient des formes sombres suspendues entre les poutres vermoulues. Des gouttes de pluie s'engouffrèrent par la partie éventrée du toit.
Espérons qu'il ne pleuvra pas trop fort.
Une moue déforma le visage allongé de Leif.
Ce qui reste de toi pourrait nous dégringoler dessus.
Toi, au moins, tu sais remonter le moral des troupes,
grinça Hayat.
J'ai faim, j'ai soif, j'ai mal partout, j'ai sommeil. Je vois pas comment je pourrais avoir un semblant de morale,
insista Leif.
Tu fais comme nous, mon vieux, intervint Anton. Tu supportes. En la bouclant.
Supportez quoi ? Notre existence ressemble à cette bâtisse, en ruine. Notre part animale nous pousse à survivre, mais vous le savez aussi bien que moi. Tout ça n'a plus vraiment de sens.
Tu avais de la famille dans la cité ? Demanda Hayat.
Évidemment, je suis pas issu du vide.
Tu n'avais pas de femme ni d'enfant, précise Aïssa.
Et alors, ça n'empêche pas que j'ai laissé là-bas des gens que j'aimais.
Ils se turent, les yeux rivés sur les flammes dansantes et grondantes. Serrée contre Ganesh, Ava pleura en silence. Des trombes tombaient maintenant des nues éventrées, soulevant un vacarme assourdissant entrecoupé par une deuxième série de coups de feu. Des formes s'égayèrent soudain sous le plafond en poussant des piaillements aigus.
« Putain, c'est quoi ça ?» glapit Leif.
« Chauve-souris, » fit Anton. « Des roussettes, peut-être. »
Elle se déployait sous le plafond en décrivant des cercles concentriques.
« Dangereuses ?» demanda Issa.
« Normalement, non. Mais elles ont peut-être muté. »
Se rendant compte qu'elles se rapprochaient peu à peu de leur tête, Ganesh tira son tasse de la poche de sa veste et le pointa sur le plafond. À la lumière du feu, les membranes des chauves-souris se dessinaient à l'intérieur de leurs ailes translucides. Leurs yeux ronds luisaient par intermittence au milieu de leurs faces allongées plus sombres que leur pelage brun.
« Elles mordent !» souffla Hayat.
« Ce sont des vampires !»
Anton les observait avec attention. Les soldats avaient déverrouillé les crans de sûreté de leurs fusils d'assaut.
« Dans certaines régions, elles peuvent vider un bœuf de son sang en quelques secondes. »
« Charmant !» grinça Leif. « Vous attendez quoi au juste pour leur tirer dessus ?»«
On risque seulement de les exciter, de les enrager. Il vaut mieux attendre. »
Elles tournoyèrent un long moment au-dessus d'eux dans un lourd bruissement d'ailes. L'une d'elles fondit soudain sur Issa. Ganesh, plus prompt que les soldats, pressa la détente du Taz et la toucha juste avant qu'elle ne s'abatte sur la jeune femme. Paralysée par le rayon étincelant, elle tomba comme une pierre, au milieu des flammes et souleva dans sa chute une gerbe d'étincelles rougeoyantes. Les soldats ouvrirent à leur tour le feu sur les roussettes les plus proches, et en descendirent plusieurs, qui dégringolèrent comme des fruits mûrs sur la terre battue. Leur tir soutenu provoqua un début de panique chez les mammifères ailés, qui volèrent un petit moment dans tous les sens avant que quelques-unes d'entre elles n'amorcent une nouvelle attaque. Paniquée, Hayat se leva. Anton la saisit par le bras et la contraignit à se rasseoir.
« Restons groupés près du feu !» Contrairement à nous, elle se repère parfaitement dans l'obscurité.
De nouvelles rafales de fusils d'assaut en tuèrent 5 ou 6. Mais une chauve-souris parvint à se poser sur l'épaule d'Anton et à lui planter ses dents dans le cou. Il tenta de se dégager, mais elle résista et commença à lui aspirer le sang dans un affreux bruit de succion. Il s'affaissa sur le côté et roula sur le sol en hurlant. Couteau à la main, l'un des soldats se précipita et tenta de frapper la roussette. Mais 5 ou 6 autres vampires passant entre les balles s'abattirent sur les deux hommes. Les deux derniers soldats se redressèrent et arrosèrent en continu la nuée de chauves-souris jusqu'à ce qu'elle s'égaye et s'enfuit par la partie ébréchée du toit. Ils se ruèrent ensuite sur leurs confrères et Anton et écartèrent à coups de couteau les grandes roussettes alourdies qui, l'une après l'autre, lâchèrent leur proie et s'envolèrent. Le sang s'écoulait en abondance des deux trous percés dans les coups des deux hommes, affreusement pâles. Si le soldat respirait encore, Anton ne bougeait plus.
« Bon Dieu !» murmura Leif.
Un soldat prit le pouls du pilote et, au bout de quelques secondes, secoua la tête.
« Putain ! Elles n'ont quand même pas eu le temps de lui pomper tout son sang !» gronda Leif.
Il a lui-même dit qu'il leur suffit de quelques secondes pour vider un bœuf, murmura Issa.
« Il a parlé de régions lointaines, et puis ça fait des litres de sang. Elles les ont mis où ?»
Certaines espèces ont muté. Le soldat blessé expira à son tour après une série de spasmes. Ses confrères se recueillirent quelques instants, puis l'un d'eux récupéra son fusil d'assaut, ses munitions, et se tourna vers Ganesh.
« Puisque vous savez manipuler les armes, c'est à vous qu'elles doivent revenir. »
Ganesh acquiesça d'un hochement de tête, glissa le fusil sur son épaule et ceignit la cartouchière autour de sa taille. Les compartiments de cuir contenaient des chargeurs pleins et des réserves de balles. « Qu'est-ce qu'on fait de leur corps ?» demanda Issa.
« On peut pas les enterrer ici, » répondit un soldat.
Ils les transportèrent dans un coin de la bergerie en attendant l'aube.
« Saloperie de bestiole !»
grogna Leif en désignant les cadavres des chauves-souris disséminés sur la terre battue.
« Elles sont même pas comestibles !»
Ils ranimèrent le feu et s'installèrent pour la nuit en oubliant la faim, la soif, les roussettes et la peur. Les deux soldats et Ganesh organisèrent des tours de garde de 2 heures, à la fois pour entretenir le feu et pour prévenir d'un éventuel retour des vampires ou d'une irruption des tueurs. Ganesh se chargea de la première veille. Tandis qu'Ava s'allongeait à même la terre près de lui, il resta assis sur une pierre et s'efforça d'ignorer la fatigue qui lui pesait de plus en plus lourd sur les épaules. Les respirations sifflantes ou les ronflements des dormeurs dominèrent bientôt le grondement sourd de la pluie sur le toit de la bergerie et les craquements des braises. Les pensées déferlèrent en torrents dans l'esprit de Ganesh. Tout en ajoutant régulièrement du bois dans le feu, il s'efforça de reconstituer la chronologie des événements qui s'étaient succédés depuis son intronisation dans la communauté des fouineurs. Il lui fallait dégager une cohérence, une évidence, de ce glissement brutal d'un simple fait divers à l'effacement total de l'humanité. Le remplacement de l'homme par une nouvelle espèce ne s'était pas effectué en quelques jours. Il avait sans doute été longuement et minutieusement préparé, plongeant ses racines dans un terreau très ancien, d'avant la formation des cités peut-être. La Grande Guerre, la guerre occultée de la mémoire des citadins et ses conséquences, la partition humaine, le confinement dans les cités, avaient parfaitement servi les intérêts de la nouvelle espèce. Le conflit n'était jamais évoqué dans le cursus scolaire de Nilopa. Ganesh s'était immergé de longues heures dans les archives enfouies sous tout un tas de couches de données pour puiser quelques bribes sur cette période. De ses explorations, il ressortait que le feu s'était déclaré au Moyen-Orient lors d'un échange de missiles nucléaires entre Israël et l'Iran, que ces bombardements, contraires aux accords internationaux, avaient entraîné un grand nombre de nations dans une escalade infernale qui avait transformé la Terre en un véritable enfer. La guerre avait commencé l'œuvre des ombres en exterminant les 9/10 de la population humaine. Les survivants s'étaient regroupés dans des cités protégées par des barrières filtrantes ou éparpillés dans le pays extérieur, le pays hors-site, ravagé et hostile. Les ombres avaient ensuite terminé le travail par l'intermédiaire des biopuces, imposées aux citadins au commencement des cités. Un claquement de pas et des halètements le tirèrent de ses réflexions. « Qui va là ?» cria Ganesh. Aucune réponse. Il se leva et brandit son fusil d'assaut en direction des bruits. « Ne tirez pas !» L'un des trois soldats partis en chasse apparut dans le halo lumineux dessiné par les flammes. Du sang maculait son treillis au niveau de la hanche. Il reprit son souffle en grimaçant, les mains posées sur les genoux. « Les tueurs !» bredouilla-t-il d'une voix hachée. « Ils nous ont surpris. Ils ont tué mes collègues. J'ai pu les semer, mais ils arrivent. Il faut partir, tout de suite !» Ganesh réveilla les autres. Ava grogna lorsqu'il lui secoua l'épaule. Il lui expliqua brièvement que les tueurs allaient bientôt débouler, qu'ils devaient immédiatement fuir. Les 8 rescapés furent sur pied en moins d'une minute. Puis, après qu'Ava et Hayat eurent confectionné un pansement de fortune sur la plaie du soldat blessé par les tueurs, ils quittèrent la bergerie en direction du nord. Il ne pleuvait plus, mais un épais manteau nuageux couvrait le ciel, occultant la lune et les étoiles. Le soldat qui marchait en tête guidait le groupe à l'aide de sa boussole dont l'écran jetait des lueurs bleutées dans les ténèbres. « On risque d'être attaqué par les roussettes !» murmura Issa. « Les vampires ou les tueurs, on n'a que l'embarras du choix !» maugréa Leif. La pluie se remit à tomber, gonflant les ruisseaux, ruisselant sur les parois abruptes des reliefs. « On devrait se mettre à l'abri !» suggéra Leif. « Pas maintenant !» répliqua un soldat. « On n'a pas encore mis assez de distance avec les tueurs. De toute façon, il n'y a rien dans le coin. » Il parcourait en effet un cirque désolé et traversé par une rivière qui débordait. La mousse couvrant le sol était glissante. Les vêtements se gorgeaient d'eau. Le froid leur mordait la peau. « Putain, on peut pas continuer comme ça !» vitupéra Leif. Ils cherchèrent un passage dans la paroi qui saignait le plateau et dont les pentes raides s'avéraient infranchissables. Ils la longèrent sur plusieurs centaines de mètres, avant de découvrir une gorge en partie submergée. Le rayon de la lampe d'un soldat éclaira une sorte de rebord surélevé, plat et large, d'environ 3 mètres, qui dominait l'eau bouillonnante en contrebas. « Ça semble être un passage !»« Et s'il s'arrête plus loin ?» objecta Issa. « On le saura que si on le suit. On longe toujours la mer ?» D'après la boussole, on est dans la bonne direction. Ils utilisèrent 2 arachnes pour gravir le court raidillon qui donnait sur le rebord longeant la gorge. Les extrémités magnétiques des cordes adhérèrent automatiquement 6 ou 7 mètres plus haut aux rochers humides. Puis, 2 à 2, les membres du petit groupe s'y agrippèrent pour se hisser au sommet de la pente. Hayat glissa à 3 reprises au milieu de son escalade et se retrouva au pied de la paroi. Un soldat lui offrit de grimper derrière elle et de la soutenir au besoin, proposition qu'elle refusa d'abord avant de l'accepter. Il lui bloqua les jambes au moment où ses mains lâchaient l'arachne, pourtant enduite d'une substance collante. Puis, il l'aida à franchir les deux ou trois derniers mètres. Le soldat blessé au flanc leur déclara qu'ayant perdu trop de sang, il n'avait plus la force de les suivre, qu'il choisissait de rester en arrière pour tenter de retarder les tueurs.
« Comment ?» grogna Leif. « Ils se foutent totalement des balles !»
Le soldat tira un petit disque circulaire d'un compartiment de sa cartouchière.
« Une mine offensive. Elle n'a l'air de rien comme ça, mais elle est très puissante. Je vous retarderai, je les attends ici. »«
Vous êtes sûr de votre décision ?» demanda Ganesh.
« Absolument sûr. Je suis foutu de toute façon. Fichez le camp !»
Ganesh et Leif attendirent Kava et Issa et à leur tour franchirent le raidillon pour se lancer dans la montée.
« Nom de Dieu, si je tenais le crétin qui a organisé cette randonnée !»
Le rebord longeait toute la gorge. Le niveau de l'eau ne cessait de monter, gonflé par les pluies et les différentes sources qui jaillissaient des parois.
« Faut encore accélérer !»
rugit le soldat qui marchait en tête. Une puissante détonation avait retenti quelques instants plus tôt. L'homme resté en arrière s'était servi de sa mine explosive, signe que les tueurs se rapprochaient. Les fuyards pataugeaient dans des nappes recouvrant partiellement le rebord. Si la pluie continuait de tomber aussi fort, le passage serait rapidement submergé. Il leur fallait prendre de vitesse l'eau et les tueurs. Ils marchaient, sans dire un mot, trempés, frigorifiés, exténués. Ils eurent bientôt de l'eau jusqu'aux genoux et durent lutter contre le violent courant du torrent, contre les ressacs, contre les remous.
« On va se noyer !» gémit Issa. « On continue, on n'a pas le choix !»
hurla le soldat de tête. Ava se retourna et lança un coup d'œil désespéré à Ganesh, qui fermait la marche. L'eau montait à une vitesse effarante à l'intérieur de la gorge, dans un vacarme assourdissant.
« Surtout, gardez le contact avec la paroi !»
Ganesh perçut des mouvements dans son dos. Il jeta un regard par-dessus son épaule et entrevit, entre les gouttes de pluie et les paquets d'eau projetés par le ressac, les silhouettes grises des tueurs. Quand un homme bon meurt, la bonté ne s'éteint pas. Quand un homme mauvais meurt, la méchanceté part avec lui. Proverbe Scorp. Pays hors site 2. Malgré l'obscurité et la pluie, et bien que la communauté compte plus de 5000 membres, les Valres n'eurent besoin que de 2 heures pour préparer leur embarquement. Ils proposèrent à Delune et aux autres de partir avec eux. Seule Lorena accepta leur offre. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas. » Elle désigna ses enfants déjà installés dans une barque. « Je pense d'abord à eux, à leur sécurité. »«
C'est ton choix et nous le respectons, » répondit Delune.
Angrais donna le signal du départ.
« Nous voguerons jusqu'aux terres du sud »
cria-t-il tandis que son embarcation s'éloignait du rivage.
« Nous reviendrons sans doute nous installer dans le coin lorsque les choses se seront tassées !»
Des centaines de voiles claires se fondirent peu à peu dans l'obscurité, et le silence retomba sur les lieux, haché par le crépitement de la pluie sur l'étang.
« Tu crois vraiment qu'ils seront plus peinards là-bas ? » demanda Kolb.
« Tant que les cavaliers nous pourchasseront, personne ne sera tranquille nulle part, » répondit Delune.
« On fait quoi maintenant ? » ?»«
On attend le matin, pour filer du côté de Port-la-Nouvelle. »
T'as entendu ce qu'il disait? Si on s'en approche, on se fera tirer dessus comme des lapins.
À condition qu'ils soient vivants. Ils ont peut-être subi le même sort que les habitants des cités.
Ouais, peut-être.
Kolb se tourna vers Yosp.
Toujours pas de nouvelles des heures, Yosp?
Le petit homme parut émerger tout à coup des profondeurs abyssales.
Elle ne me parle plus!
Ils s'installèrent pour la nuit dans l'un des bâtiments des Valres. Les pêcheurs avaient montré à Kolb la vanne qui commandait l'ensemble des ouvertures permettant à l'eau de passer instantanément des canaux et du lac à la fosse creusée autour des constructions. Ils se répartirent les tours de garde jusqu'à l'aube, le veilleur se postant à l'un des étages supérieurs pour avoir une vue d'ensemble des environs. Kolb se chargea du premier quart tandis que les autres se couchaient dans les chambres du rez-de-chaussée. Delune et Naya se retrouvèrent seuls dans une petite pièce équipée d'un lit assez étroit où régnait une odeur tenace de vase et de poisson. Ils s'aimèrent avec une douceur infinie, bercé par le crépitement de la pluie. Le plaisir déborda Naya en vagues à la fois puissantes et suaves, reculant sans cesse ses limites. Elle se perdit en deux lunes avant de s'endormir dans son odeur et sa chaleur, apaisée, rassurée. Kolb vint réveiller Rodak 2 heures plus tard. Le géant remplaça le trappeur devant la fenêtre du 3e étage, auquel on accédait par un escalier en mauvais état. Un cri d'alerte retentit au cœur de la nuit. Rodak dévala 4 à 4 l'escalier. Il avait vu les ombres grises se déployer dans les ténèbres à quelques centaines de mètres des bâtiments.
« Faut ouvrir les vannes !» lança Kolb. « La fosse est camouflée, ils vont tomber dedans !»«
À moins qu'ils ne trouvent d'autres passages !»
fit observer Rodak.
« Tentons notre chance !» proposa Delune.
Tandis que Rodak remontait à l'étage pour surveiller la progression des cavaliers, Delune, Naya et Kolb se rendirent près de la vanne métallique située dans le sous-sol du bâtiment. Le trappeur la tourna d'un quart de tour. Le bruissement de l'eau se déversant des canaux dans la fosse se fit aussitôt entendre, à la façon d'une source jaillissant des profondeurs de la terre. Ils rejoignirent ensuite Rodak près de la fenêtre du 3e étage, discernèrent les ombres grises des cavaliers qui progressaient à une allure régulière en direction des bâtiments. Les mouvements souterrains de l'eau restaient indécelables à la surface.
« Ils vont pas tarder à arriver devant la fosse !» murmura Kolb. « Cette fois, ils avancent en file indienne, ils tomberont pas tous en même temps. » On aurait dû ficher le camp avec les autres.
Le premier cavalier de la file s'affaissa soudain, comme aspiré par le sol. Le camouflage d'herbe et de terre céda sous son poids. Il atterrit dans l'eau et coula comme une pierre sans avoir esquissé le moindre mouvement. Les autres s'immobilisèrent aussitôt avec un synchronisme parfait.
Et maintenant, souffla Kolb, qu'est-ce qu'on fait? Il reste plus un seul foutu bateau dans le coin.
Les cavaliers ne bougeaient toujours pas. Delune maintint écartées les mèches de ses cheveux pour mieux les observer. On dirait qu'ils sont déconnectés.
Pour combien de temps?
Le temps pour eux de comprendre ce qui se passe. Profitons-en pour filer par l'autre côté.
Il y a de l'eau de l'autre côté, on n'a pas de bateau.
Nous n'aurons qu'à longer la rive.
On a toutes les chances de s'enliser dans des marais.
Delune dévisagea Kolb. Tu as une meilleure solution?
Ça me paraît être une bonne idée, intervint Rodak. On marchera dans l'eau au besoin, et on sera planqué par la végétation.
Ils descendirent et expliquèrent la situation. Elvar avait déjà préparé les enfants. Seul Yosp semblait encore mal réveillé. Ils sortirent par l'une des portes arrière du bâtiment et, se dirigeant vers le sud, s'engagèrent sur l'étroite bande de terre bordant l'étendue d'eau. Elle était coupée une centaine de mètres plus loin par la fosse ceinturant les constructions et dont le camouflage de branches et de terre s'était partiellement effondré.
Contournons-la, en passant par le lac, proposa Rodak.
Joignant le geste à la parole, le géant s'avança vers l'eau, s'y enfonça jusqu'à la taille, puis, après une large boucle, revint vers le rivage. Lorsqu'il sortit de l'eau, il était passé de l'autre côté de la fosse.
Faudra juste porter les enfants!
Elvar porta son premier enfant sur ses épaules. Kolb se chargea du second. Naya maintint son pistolet levé au-dessus de sa tête tout au long de la traversée. Ils suivirent le chemin tracé par Rodak, s'immergeant à leur tour jusqu'à la taille, jusqu'au cou pour Yosp. Des gouttes de pluie éparses hérissaient la surface sombre du lac. Pas une étoile ne brillait dans le ciel ténébreux. Les ululements des chouettes transperçaient régulièrement le silence troublé par les clapotis. Une fois de l'autre côté de la fosse, ils marchèrent en direction des roseaux frissonnants. La fraîcheur nocturne associée à leurs vêtements détrempés leur glaçait la peau. Yosp éternua bruyamment.
« Fais attention !» grommela Kolb. « Tu vas donner l'alerte aux cavaliers !»
Les roseaux abritaient un marécage boueux mais praticable. Ils s'éloignèrent peu à peu des bâtiments, s'immobilisant régulièrement pour vérifier que les cavaliers ne les suivaient pas. Ils parcoururent 3 bons kilomètres avant d'arriver au point de jonction entre le lac et la mer. Un bras d'une 50aine de mètres de largeur et probablement d'une profondeur de plusieurs dizaines de mètres.
« Comment on peut traverser ça ?» marmotta Kolb. « Tout le monde sait pas nager.
Fouillons les environs, nous trouverons peut-être une barque. »
Ils en trouvèrent une, échouée sur la grève un peu plus loin. Son délabrement apparent soulevait de sérieux doutes sur sa capacité à flotter, mais lorsqu'ils la mirent à flot, ils s'aperçurent que sa coque était à peu près étanche. N'était une légère fuite entre deux lattes de bois. Ils résolurent d'effectuer deux traversées pour répartir le poids des passagers. Kolb se chargerait d'emmener d'abord Elvar, Rodag et leurs enfants, puis il reviendrait chercher deux lunes, Naya, Yana et Yosp. Pour Ram, il disposerait d'une branche morte terminée en fourche. Après que Rodag et sa famille eurent embarqué, Kolb s'installa à l'arrière et poussa sur la branche pour s'éloigner du bord. L'embarcation se fondit peu à peu dans l'obscurité.
« Tu crois qu'elle tiendra le coup ?» demanda Naya.
« Espérons, » répondit de lune.
« Mais on sera sans doute obligé d'écoper. »«
J'ai froid. »
De lune serra Naya contre lui. Yana et Yosp grelottaient eux aussi. Le guérisseur avait la nette impression que l'humanité se réduisait dorénavant à un fil, et qu'ils étaient ce dernier fil, si fin, si fragile, qu'ils risquaient de rompre à chaque instant.
« Les heures, elles me parlent !»
lança Yosp.
« Elles me disent, les hommes méchants qui n'ont pas d'odeur, ils viennent, ils veulent nous tuer !»«
On est coincés !» soupira Naya.
Elle fixa l'obscurité à s'en crever les yeux. Elle ne discerna aucun mouvement dans les ténèbres, ni devant ni derrière eux. Le ciel lui-même n'était qu'une immense bouche noire sur le point de les engloutir.
« On traverse à la nage ?» proposa Yana.
« Yosp et moi, on ne sait pas nager, » répondit Naya.
« Mais de lune et toi, vous pouvez y aller. »
De lune la fixa d'un air réprobateur.
« Tu sais bien que je ne partirai pas sans toi. »
Elle lui prit la main et puisa dans son regard la force de sourire.
« Donnons encore un peu de temps à Kolb, » ajouta de lune.
« D'accord, je reste avec vous, » fit Yana.
L'attente se prolongea, crispante. Des bruits résonnaient dans le lointain, indistincts entre les sifflements du vent.
« Ah, il arrive !»
Naya désignait la masse légèrement plus claire qui émergeait peu à peu de la nuit.
« Les hommes méchants, ils sont tout prêts !»
s'exclama Yosp. La barque pilotée par Kolb s'échoua sur la grève dans un crissement prolongé.
« Faut la vider avant de repartir !» déclara le trappeur. « Elle est à moitié remplie d'eau !»«
Pas le temps !» objecta de lune. « Les cavaliers sont derrière nous !»
« On va couler !
On écopera au fur et à mesure !»
Des craquements retentirent derrière eux.
« Vite !»
Ils poussèrent la barque sur l'eau et s'y installèrent. Yosp et Yana devant eux, de lune et Naya au milieu. Kolb à l'arrière. Le trappeur s'arc-bouta sur la branche pour donner de l'élan à l'embarcation. Les ombres grises des cavaliers apparurent dans le lointain. La barque alourdie peina à s'élancer.
« Nom de Dieu, elle va couler !»
vitupéra Kolb. De lune se défit de sa veste et, torse nu, en fit un récipient pour commencer à écoper. Les autres l'imitèrent. Naya également, malgré sa répugnance à exhiber sa poitrine nue devant Kolb. Les lattes semblaient se disjoindre et la fuite s'agrandir rapidement. Une course de vitesse s'engagea avec l'eau. Les silhouettes de quatre cavaliers se découpèrent sur la rive. Leurs yeux blancs brillèrent comme des étoiles échouées sur terre. Le trappeur tenta de donner un minimum de vitesse à la barque. Mais elle progressait avec une lenteur exaspérante. Les gémissements de Yosp traduisaient autant sa terreur de l'eau que sa frayeur des tueurs déployés derrière eux. Une première rafale déchiqueta le silence nocturne. Les balles soulevèrent des gerbes rageuses d'un côté de la barque, pétrifiant ses passagers.
« N'arrêtez pas d'écoper !»
lança de lune. Donnant l'exemple, il continua d'enfoncer sa veste dans l'eau submergeant la barque et d'en jeter le contenu par-dessus bord. Une deuxième volée de balles dégringola en pluie autour d'eux. La plupart d'entre elles fusèrent au-dessus de leur tête, mais certaines se fichèrent dans le bois. À Anan, Kolb parvint enfin à donner de l'élan à la barque, et la rive ne fut rapidement plus qu'une bouche sombre avalant les formes grises des quatre cavaliers. Une rafale déchiqueta de nouveau l'obscurité. Kolb poussa un cri et s'affaissa sur le côté.
« Kolb est touché !» cria Naya. « Continuez d'écoper !»
De lune se précipita à l'arrière de la barque et repéra une tache sombre sur la poitrine du trappeur. La balle l'avait frappé dans la région du cœur.
« Kolb, tu m'entends ?»
Le trappeur acquiesça d'un grognement. De lune l'installa le plus confortablement possible contre le rebord, récupéra son couteau et découpa un pan de sa veste avec lequel il jugula au mieux l'hémorragie. Puis, il se saisit de la branche et la plongea dans l'eau pour corriger la dérive de la barque et la mener vers l'autre rive. L'eau montait rapidement.
Yosp avait surmonté sa phobie pour, en se servant de ses mains en coupe, aider les autres à écoper. De Lune fouilla la nuit du regard. Ne discernant toujours pas l'autre rive, il se demanda s'il allait dans la bonne direction. Il ramait de toute son énergie, mais le poids de l'eau freinait l'embarcation. Kolb, recroquevillé sur lui-même, poussait des gémissements étouffés.
« On y est presque !» glapit Naya.
Galvanisés, les deux filles et Yosp écopèrent de plus belle. Des rochers se dressèrent tout à coup devant eux. De Lune parvint à les éviter en donnant de vigoureux coups de branche sur le côté. Puis, la barque piqua tout droit vers la rive légèrement surélevée.
« Kolb !»
la voix de Rodag.
« Par ici !»
cria De Lune.
« Kolb est blessé !»
Au bout de sa dérive, la barque heurta le bord rocheux et commença à se disloquer. Le guérisseur empoigna le corps de Kolb et, malgré son poids, parvint à le soulever.
« À moi !»
Accroupi sur le bord, Rodag se saisit du trappeur et le hissa près de lui. De Lune eut tout juste le temps de se suspendre à une aspérité tandis que la barque s'enfonçait dans l'eau. Rodag l'aida ensuite à prendre pied sur la rive. Le froid cingla le torse nu du guérisseur.
« Et les autres ?»«
Tout le monde est là !»
Il aperçut Naya, Yana et Yosp aux côtés d'Elvar et de ses deux enfants. Ils allongèrent Kolb quelques mètres plus loin. La respiration sifflante du trappeur alarma De Lune. Il défit le pansement de fortune qu'il avait confectionné quelques instants plus tôt et examina la plaie. La balle avait déchiqueté la chair dans le défaut de l'épaule.
« Pas la peine, » souffla Kolb. « Mon heure est venue. »
Des larmes vinrent aux yeux de De Lune. Il n'y avait plus rien à faire pour le trappeur.
« J'ai eu une belle vie, »
murmura encore Kolb.
« Je remercie le ciel. »«
Résiste, Kolb !»
balbutia Naya. Oubliant sa poitrine nue, elle s'approcha du trappeur, se pencha sur lui et lui caressa le front du dos de la main.
« Je suis foutu. Je suis heureux d'avoir fait un bout de route avec vous. »
Il désigna De Lune d'un mouvement des yeux.
« Prends soin de lui, Naya. » Il est précieux.
Elle acquiesça d'un clignement de paupières qui décrocha les larmes perlant à ses cils.
Tout ce que je vous demande, c'est d'échapper à ces foutus cavaliers,
reprit Kolb. Sa voix n'était plus qu'un souffle imperceptible.
Et jeter mon corps aux poissons. Bon Dieu, c'était bon. Bon d'avoir enfin une famille.
Il tenta de se redresser en un ultime effort, puis, à l'issue d'un soupir rauque et prolongé, son corps fut parcouru de spasmes, sa tête retomba, et toute lumière se retira de ses yeux. La pluie se mit à tomber lorsqu'ils jetèrent le corps de Kolb à la mer. Les larmes du ciel se mêlèrent à celles de Naya, de Delune et de Yosp. Il fallait maintenant trouver un abri et des vêtements. Ils longèrent le littoral sur plusieurs kilomètres avant de repérer un trou dans une paroi rocheuse, peut-être une grotte. Ils escaladèrent quelques mètres de pente et se glissèrent dans un orifice d'environ 2 mètres de diamètre. Ce dernier donnait sur une cavité étayée par 2 grosses stalagmites recouvertes d'une légère couche blanchâtre, qui indiquait que les vagues, lors des tempêtes, s'engouffraient dans la grotte. Naya se serra contre De Lune pour se réchauffer. Rodag en fit de même avec sa femme et ses enfants. Et Yana enlaça Yosp sans que ce dernier, pourtant réfractaire aux étreintes, ne proteste. La voix du petit homme s'éleva dans le silence.
« Les heures, elles me parlent !»«
Qu'est-ce qu'elles te disent encore ?»
grogna Naya d'une voix ensommeillée et légèrement agacée.
« Elles me disent, les hommes qui n'ont pas d'odeur, ils vont dans la maison transparente. »
La maison transparente, c'est quoi ça?
La maison qui les répare, la maison qui les nourrit.
Elle est où cette maison? Intervint De Lune.
Les heures me disent, ils se méfient de l'eau. La maison, elle est dans la cité où naissent les machines.
À Port-la-Nouvelle?
Je sais pas. Les heures ne me disent pas.
Dormons maintenant. De Lune se pelotonna dans la chaleur de Naya, enchanté par la douceur de sa peau. Nous arriverons demain à Port-la-Nouvelle et nous verrons bien.
S'ensuivit un court moment de silence, brisé par la voix plaintive de Yosp.
Je l'aimais bien, Kolb. C'était un homme gentil.